L'appel de la ruche.
Cette émission est proposée par Florence, du Rucher des Ânes, et Virginie, au secret des abeilles.
Bonjour à tous, c'est Virginie du Secret des Abeilles, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'Appel de la Ruche.
Bonjour, je suis Florence de la ferme pédagogique Le Rucher des Ânes à Rieux-Volvestre.
Il est l'heure du réveil de la colonie. Depuis plusieurs jours, les températures en journée franchissent les 12 degrés et les colonies l'ont bien senti. Il est temps de se remettre au travail pour les nouvelles butineuses. Elles sont très reconnaissables dans la ruche. Elles arborent un pelage gris-argenté et sont toutes velues. C'est la nouvelle génération au sein de la ruche. Elles vont petit à petit remplacer les abeilles d'hiver qui vont mourir. Ces nouvelles abeilles sont dans les starting blocks et dès qu'il fait assez chaud à l'extérieur, elles sortent pour ramener du pollen pour nourrir les larves. La colonie augmente en nombre à vue d'œil. Les noisetiers et les sols sont en fleurs et donnent assez de ressources. Quelques fleurs commencent à pointer. Perce-neige, anémone des bois, premier pissenlit et les fruitiers commencent à bourgeonner. Le printemps s'annonce gentiment. Je vous rappelle qu'il va falloir 100 000 fleurs butinées pour fabriquer 1 kg de miel et 7 kg de miel pour faire 1 kg de cire. Mais nos amis les abeilles sont des acharnés du travail et elles sont parties pour la récolte. Mais ce ne sont pas les seuls à se réveiller. Les pollinisateurs sauvages sont aussi de retour. N'est-ce pas, Florence ?
Oui, les bourdons des champs, eux aussi, sortent d'hibernation. Ce sont les rennes qui se mettent au travail dès les premières heures de la journée, car les bourdons peuvent élever leur température corporelle. Donc tôt dans la matinée, alors que nos colonies sont au chaud, eux sont déjà dehors, au travail, pour créer une nouvelle colonie. Car les bourdons doivent repartir de zéro. Ne survivent à l'hiver que les rennes qui hibernent dans le sol de nos jardins ou de la forêt. Dès que le sol se réchauffe, elles ressortent et se mettent à récolter du nectar et du pollen, puis construisent un nouveau nid pour la future colonie. Les guêpes, les frelons ont le même fonctionnement et dès le mois de mars, les pollinisateurs sauvages sont au travail. Il faut rappeler que tous ces insectes sont essentiels pour nos plantes et leur existence est liée à la nôtre. Il faut penser à les protéger, en conservant des zones fleuries dans nos jardins, afin qu'ils puissent se nourrir. Sans eux, les plantes ne seraient pas fécondées et ne pourraient pas donner de fruits. Maintenant que la ruche est repartie pour une nouvelle saison, c'est à l'apiculteur de surveiller que tout se passe bien pour elle, que le couvain se développe normalement et que les réserves sont suffisantes avant les grandes floraisons de colza, acacia, et qu'elles aient assez de nourriture pour nourrir les nouvelles abeilles naissantes.
Tu sais, Florence, que j'ai choisi dans mes ruches des abeilles qui ont été sélectionnées par l'homme. Et nous les avons rendues un peu dépendantes de l'intervention de l'homme au niveau de la nourriture. Ce sont des colonies qui vont se développer très rapidement au début de la saison et qui peuvent manquer de nourriture si l'homme n'intervient pas. Nous pouvons aussi préserver des abeilles plus rustiques qui ont besoin de moins d'intervention de l'humain, mais elles seront moins productives. Difficile de choisir entre préservation et productivité. Moi, je conserve du miel sur des cadres que je leur redonne au fur et à mesure de l'hiver si nécessaire. Par contre, je vais bientôt avoir dans mes colonies la fièvre de l'essaimage. C'est la division naturelle de la colonie au printemps. Lorsqu'il n'y a plus de place dans la colonie, la reine part vers de nouveaux horizons avec des abeilles qui lui sont dévouées. Mais nous vous expliquerons ce phénomène plus en détail dans la prochaine émission. Aujourd'hui, nous avons envie de vous parler des différents ennemis de la ruche. Le premier de la liste est un papillon, le sphinx tête de mort. C'est un énorme papillon, un des plus gros du monde. C'est surtout un voleur de miel. Il entre discrètement dans la ruche et sécrète des hormones qui sont très proches de celles de la colonie. Il arrive qu'il ne soit pas repéré et il se nourrit tranquillement des réserves de la colonie. C'est le coucou des abeilles. Par contre, il arrive que la colonie le détecte. Et là, c'est la bagarre. Les abeilles vont le chasser sans répit, voire le piquer à mort pour se débarrasser de ce pic-assiette. J'en retrouve parfois au fond de mes ruches recouvertes de propolis.
Le second ennemi de nos butineuses, c'est le fameux varroa. C'est un acarien venu d'Asie. C'est un parasite dont les abeilles n'arrivent pas à se débarrasser seules, une fois qu'elles l'ont sur le dos. C'est un suceur de lymphe qui, comme le pou, va piquer plusieurs fois l'abeille pour se nourrir. Tout comme le pou également, il se déplace sur le corps de nos butineuses. Il est armé d'une cuirasse épaisse et se multiplie en masse. Il a aussi mis en place une reproduction efficace à l'intérieur du couvain. La femelle varroa fécondée va pondre à l'intérieur d'une alvéole pendant le développement de l'abeille. Pour cette espèce, cela est très judicieux, puisque la femelle va pondre des mâles et des femelles à l'intérieur de l'alvéole. L'abeille avec qui les varrois sont enfermés leur sert de garde-manger et ne verra jamais le jour. À l'intérieur de l'alvéole, les mâles auront même le temps d'être matures et de féconder ses sœurs. Lorsque le couvain sera désoperculé par une nettoyeuse, cela va libérer de jeunes femelles fécondées qui n'auront plus qu'à se nourrir sur une abeille puis retourner donner naissance dans une alvéole à des dizaines d'autres varrois. Vous imaginez qu'en saison, le varroa ne se voit pas car le nombre d'abeilles est suffisant. Mais dès la fin de la saison, les apiculteurs ne comprennent pas. Nous avons au sein de nos ruchers des effondrements de population et les colonies trop affectées meurent. Virginie, peux-tu nous parler des traitements contre ce parasite?
Pour cela, plusieurs traitements sont mis en place par les apiculteurs et même la nature essaie d'aider nos butineuses. Tout d'abord, nous avons des petits scorpions qui se nourrissent du varroa. Ce sont des alliés pour nos ruches, mais ils ne suffisent pas. Ensuite, les apiculteurs font des traitements pour limiter la prolifération de ce parasite. Personnellement, je supprime le couvain de mâles au printemps, car je vous rappelle que le couvain de mâles reste 24 jours en développement dans son alvéole, ce qui laisse beaucoup de temps aux varrois pour se développer et se reproduire. Du coup, dès le printemps, je mets des cadres à mâles dans mes ruches. Ce sont des cadres de hausse où les abeilles vont construire en dessous des alvéoles à mâles et tous les 21 jours, je supprime ces abeilles mâles dans mes ruches avant que les abeilles naissent. Cela limite bien la prolifération au printemps. Ensuite, je vais, dès la fin de saison, encager mes reines. C'est-à-dire que lors de ma dernière miellée, je vais réduire l'espace de ma reine et je vais lui donner un cadre où elle pourra pondre, mais les ouvrières ne pourront pas operculer ses alvéoles. Donc, je crée un moment, comme en plein hiver, où je n'ai plus de couvain operculé. C'est le moment où, une fois le miel récolté, je vais pouvoir traiter à l'acide oxalique, car tout mon varroa sera forétique, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans le couvain, mais simplement sur les abeilles. Ensuite, je relâche ma reine qui reprend son travail de ponte pour nous faire des ouvrières d'hiver. Et la saison se termine sans trop de casse pour la ruche et l'apiculteur. Ce qui est difficile avec ce parasite, c'est que malgré l'intelligence collective de la colonie, elle n'arrive pas à s'adapter et à se débarrasser mutuellement du varroa. Certaines colonies commencent à montrer des signes de lutte car certaines ouvrières arrive à détecter les alvéoles atteintes par le varroa et ouvre celles-ci. Le parasite n'a pas pu se reproduire totalement et des études de ce phénomène sont en cours. Le problème avec ce parasite, c'est qu'à force de piquer les abeilles, il leur transmet aussi des virus, comme la maladie noire ou le virus des abeilles tremblantes, qui sont terribles pour les abeilles et qui vont anéantir la ruche très infectée.
On retrouve aussi dans les ruches des maladies dites du couvain. Lorsque le couvain est clairsemé ou que les alvéoles sont bombées ou au contraire complètement affaissées, la modification de couleur aussi peut évoquer une maladie. La loque est une maladie transmise par un champignon. Elle est contagieuse et les spores de cette maladie peuvent survivre plusieurs décennies sur le matériel de l'apiculteur ou dans une ruche non désinfectée. Pour désinfecter, nous passons le matériel à la flamme. C'est une maladie qui s'attaque aux larves dans les alvéoles, qui entraîne l'affaiblissement de la ruche jusqu'à sa disparition.
D'autres maladies, comme l'acariose, affectent directement l'abeille, qui va toucher le système respiratoire de notre ouvrière. Il y a aussi des diarrhées, des déformations à la naissance, souvent sur les ailes. À chaque maladie, cela commence par un affaiblissement de la colonie qui entraîne peu à peu un dépeuplement et c'est là que certains prédateurs comme le frelon, les guêpes ou la fausse teigne en profitent pour proliférer et piller les réserves. Une fois la ruche complètement dépeuplée, un papillon dont les larves se nourrissent de cire va lui en profiter pour pondre ses œufs. C'est la fausse teigne. Très vite, les alvéoles grouillent de larves qui mangent la cire et forment rapidement des chrysalides avant de voir naître de nouveaux papillons. Les mulots et divers rongeurs peuvent aussi attaquer les ruches. Certains oiseaux, comme les pivers, se nourrissent des larves et du miel au printemps car ils raffolent du sucre. En résumé, nos petites abeilles ont besoin que l'on prenne soin d'elles et nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider.
Vous aimeriez pouvoir accueillir une ruche dans votre jardin et si possible pouvoir les observer tout au long de l'année? Beaucoup de personnes me demandent comment faire. Tout d'abord, vérifiez que vous avez la possibilité de le faire sans mettre en danger vos voisins. Le mieux est de passer dans votre mairie pour savoir la réglementation en vigueur. À quelle distance minimum votre ruche pourra se situer par rapport aux habitations voisines? En général, il faut compter au minimum 20 mètres entre la ruche et les habitations. Attention, même pour une seule ruche, il vous faudra la déclarer chaque fin d'année. C'est une démarche simple à faire sur Internet. Une fois tout cela vérifié, vous pourrez vous lancer dans la grande aventure des abeilles. Pour accueillir un essaim en tant qu'amateur, je vous conseille vivement la ruche kenyane, également appelée TBH. C'est une ruche sédentaire. On ne la déplace pas facilement, mais c'est celle qui se rapproche le plus d'une ruche naturelle. Elle a une forme un peu originale, un losange, tout en longueur. Vous pouvez en trouver avec une vitre sur tout le long du bas de la ruche, ce qui vous permettra d'observer le travail des abeilles tout au long de l'année. À l'intérieur, vous ne trouverez pas de cadre, mais des planchettes en bois, alignées les unes à côté des autres, sous lesquelles les abeilles viendront construire leur rayon de cire. Pas de fil de fer, pas d'amorce, pas besoin d'une centrifugeuse pour récolter le miel. Vous pouvez vous en occuper avec un matériel de base simplifié. Une tenue d'apiculteur, vareuse ou tenue complète, pour vous protéger des piqûres quand vous ouvrez la ruche. Un lève-cadre, pour vous aider à manipuler et sortir les rayons sous les planchettes, car elles sont souvent collées par la résine de propolis. Un enfumoir, cet appareil qui permet de mettre un peu de fumée dans la ruche pour éviter de se faire piquer. En parlant de l'enfumoir, Virginie, peux-tu nous expliquer comment il fonctionne? Beaucoup de gens pensent que cela endort les abeilles, mais je pense qu'il est temps de faire la lumière sur cette idée reçue.
En effet, Florence, cela n'endort absolument pas les abeilles. Bien au contraire. Vous, si vous voyez de la fumée dans votre maison, vous iriez faire une sieste? Non, elles non plus. Elles vont se préparer à fuir. Mais pour elles, fuir sans réserve de miel est un suicide assuré. Donc, elles vont avoir un seul objectif, aller se remplir le ventre, plus exactement le jabot de miel, avant de fuir. Nous ne les endormons pas. Nous les occupons sur un sujet plus important. Ainsi, elles ne perdront pas leur temps à venir nous piquer. Bien entendu, nous devons faire vite dans nos manipulations de la ruche, car cette diversion ne tiendra pas longtemps. Très rapidement, elles comprendront qu'il n'y a pas de feu à proximité et défendront à nouveau leur ruche de notre intrusion.
Pour revenir à votre ruche et comment déguster votre miel, soit vous pouvez découper des morceaux de rayon pour le manger tel quel, soit vous pouvez presser vos rayons dans un pressoir pour récupérer le miel et le mettre en pot. N'hésitez pas à vous renseigner sur Internet. Vous trouverez de nombreuses ressources pour apprendre l'apiculture ou contacter un rucher école près de chez vous pour apprendre comment bien vous occuper de votre essaim. Rappelez-vous que les abeilles sont des êtres vivants. Si vous vous engagez à prendre une ruche, faites-le dans le respect de l'abeille.
C'est ainsi que cette émission de l'Appel de la ruche se termine. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiogalaxie31.com et bien sûr, vous pouvez nous poser vos questions sur le mail de la radio
contact@radiogalaxie31.com.
À bientôt.
À bientôt.